Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Arnaud.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
On va faire une formation sur la franchise. Est-ce que tu peux te présenter ?
Eh bien, écoute, je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai 40 ans et aujourd'hui je suis multi-franchisé dans plusieurs secteurs d'activité et plusieurs enseignes. J'ai d'abord un premier restaurant qui s'appelle Memphis que j'ai ouvert en 2015, un autre restaurant sous enseigne Otakos que j'ai ouvert en 2019, un deuxième restaurant Otakos que j'ai ouvert en 2020 et aujourd'hui je suis en train d'ouvrir sous une nouvelle enseigne qui s'appelle Maison Pierre, une agence de construction de maisons individuelles sur Chambéry et Lyon.
Ok. Est-ce que tu peux aussi nous parler de l'immobilier ? Parce que je sais que tu as aussi fait de l'immobilier en plus de la franchise.
Alors tout à fait. En fait, suite à mon premier lancement d'entreprise qui a été plutôt un succès, cela m'a permis de pouvoir solliciter mes partenaires bancaires pour pouvoir consolider mon patrimoine personnel. Et en 2019, j'ai pu faire l'acquisition de 4 immeubles de rapport, ce qui équivaut à environ 30 lots.
C'est extrêmement intéressant, on en reparlera tout au long de la formation parce que ça parle beaucoup aux membres au lit, l'investissement immobilier. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, dans ton parcours de voir que tu as fait les deux. Ce n'est pas ou la franchise ou l'immobilier. On peut faire les deux en parallèle ou on peut aussi se servir de l'un puisque, comme tu viens de le dire, ça t'a aidé en fait la franchise à investir dans l'immobilier. Donc on y reviendra. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail du coup ton parcours, ce qui t'a amené à être aujourd'hui multifranchisé ? Comment on passe de jeune étudiant qui ne sait pas forcément exactement ce qu'il veut faire à multifranchisé avec un beau patrimoine immobilier ?
Alors bon, déjà j'ai pas eu un parcours scolaire hyper développé au départ qui était plutôt difficile. Pour anecdote, j'ai failli retripler ma cinquième, donc comme quoi tout peut mener aussi à l'entrepreneuriat. Dans mes études supérieures, j'ai fait un BTS action commerciale en alternance que j'avais fait chez Schneider Electric à l'époque en tant qu'assistant commercial. Et j'ai fait 2 ans d'école de commerce plutôt orienté marketing et ensuite de ça achat chez Smoby et ensuite de ça chez le réseau Feu Vert d'ateliers automobiles.
Ok. Et donc du coup, à cette époque-là, pas du tout déjà d'idée de franchise. Tu voulais être dans le salariat ou tu avais déjà des rêves d'entrepreneuriat peut-être ?
Alors, dans ma famille, j'ai mon père qui est entrepreneur, qui a été entrepreneur. Donc j'ai toujours cette fibre entrepreneuriale. À tel point que lorsque j'ai fini mon alternance chez Feu Vert, on m'a proposé un poste que j'ai décliné pour pouvoir lancer ma première entreprise à 26 ans, qui était dans l'assistance informatique à domicile. Donc dès 2006, j'avais volonté de monter ma première entreprise, pour le coup, sans être accompagné de la franchise.
Et alors, comment ça s'est fait du coup ? Tu avais un associé, tu avais des gens qui t'accompagnaient, tu as fait ça dans le cadre d'un incubateur ?
Alors non, je l'ai fait tout seul, sans incubateur et sans être extérieur, ce qui était un peu compliqué à l'époque, hein, puisqu'il faut tout réaliser, tout créer, tout inventer. On n'a pas d'antériorité, on n'a pas de savoir-faire. Il faut tout mettre en place et je l'ai fait avec un associé. Et pendant 4 ans, j'ai porté ce projet où j'ai eu la chance de travailler 7 jours sur 7, de travailler 18 heures par jour pour ne pas me rémunérer et ensuite de ça pour avoir beaucoup de difficultés en termes de développement et de rentabilité, puisqu'en fait, même si le chiffre d'affaires doublait chaque année, la rentabilité n'était pas forcément au rendez-vous.
Pourquoi du coup ?
En fait, j'avais la volonté réellement de réinvestir tous les fonds propres dans la société pour pouvoir financer un développement. Et puis quand on a 26 ans, on n'a pas en tête tout le savoir-faire d'entrepreneur, de contrôler ses tableaux de bord, de vérifier que les opérations qu'on fait sont réellement rentables et qu'elles sont bénéfiques pour le business. Donc en fait, à l'époque, je vais dire très bêtement, le chiffre d'affaires était un peu égal à du bénéfice ou ce genre de choses. Donc c'est important d'avoir un esprit de gestion dans l'entrepreneuriat.
Donc du coup, tu dirais que tu y allais un petit peu naïvement, entre guillemets, dans cette expérience-là. Il y a des choses que tu avais mal anticipées ?
Oui, la partie commerciale est essentielle dans le développement des affaires, hein, qu'on soit dans un commerce de proximité ou dans le développement en B2B, par exemple. La partie commerciale est vraiment l'élément essentiel. Le fait de pouvoir trouver des nouveaux clients et de trouver les canaux qui permettent de trouver les nouveaux clients sont assez difficiles. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans une activité B2C, pour trouver de nouveaux clients, il fallait utiliser surtout des médias, la presse, qui étaient des canaux qui étaient assez, en 2006, hein, assez coûteux et sur lesquels on n'avait pas forcément la capacité de juger d'un taux de retour. Donc il a fallu faire des investissements sur lesquels on n'était pas forcément rentable.
Ok. Et en fait, je vais pas commencer par le commencement. Comment tu as identifié le créneau, le business sur lequel tu voulais te lancer?
À l'époque, on était en plein développement du service à la personne. L'informatique prenait de plus en plus de place dans les foyers. Et en fait, c'était un constat très simple, c'est qu'autour de moi, tout le monde avait un problème avec l'informatique à un moment ou à un autre et ne savait pas le résoudre. Donc face à ce problème, on a décidé avec mon associé de pouvoir répondre à cette demande-là via la société.
Ok, et donc c'était quoi concrètement ce que vous offriez comme service?
On offrait le fait de se déplacer à domicile pour pouvoir réparer l'ordinateur, l'imprimante de monsieur et madame tout le monde.
Et donc la difficulté du coup, c'était dans la croissance, c'était que le besoin, on l'imagine très facilement, la difficulté c'était de répondre à ce besoin, de trouver les bons techniciens pour se déplacer partout en France. Cette question un peu logistique, on va dire,
Ce n'était
du
pas la
service?
partie logistique, c'était vraiment la partie cible, c'est-à-dire que on touchait une clientèle B2C, donc des particuliers. Les particuliers, en général, le premier concurrent, en fait, c'était l'ami de la famille ou le neveu des grands-parents ou ces gens-là qui venaient réparer l'ordinateur. Et finalement, le coût humain étant quand même important en France, on avait un niveau de prestation qui était à des prix marchés, mais il fallait le particulier avait du mal à payer pour avoir cette prestation-là. Une fois que le service était fait, bah, finalement, ils en ressortaient rien, quoi. Ils n'avaient rien de palpable. Donc du coup, bah, en fait, ils faisaient appel à nous par défaut. Au final, ils trouvaient ça cher et c'était difficile de les réengager et d'avoir un taux de revisite qui permette de fidéliser une clientèle, même si on avait une niche. Qui permettait de. Enfin, on avait certains clients qui permettaient de revendre en fait nos prestations.
Qu'est-ce qui a fait que, tu m'as dit que ça a duré 4 ans, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu as dit stop, ou peut-être ton associé a dit stop et t'a convaincu? Comment ça s'est fait?
Alors, il y a plusieurs. La vie est particulière pour chacun. Il y a plusieurs choses qui ont fait, c'est qu'il y a un phénomène aussi d'usure, parce que comme je te le disais, j'avais eu la chance de pouvoir bénéficier des allocations Pôle emploi qui permettent à beaucoup d'entrepreneurs de se lancer. Ça, c'est vraiment un élément hyper important en France. On a cette chance-là. Il y a un phénomène d'usure. Et puis après, il y a le contexte familial, des choses de la vie. J'ai mon père qui est décédé à ce moment-là. Il a fallu effectivement gérer la transition de la reprise de sa société. Moi, j'étais fatigué aussi de ne pas voir le bout du jour parce que. Pendant tout ce temps-là, j'ai vraiment extrêmement beaucoup travaillé sans en avoir les fruits. Et du coup, j'ai préféré dire, bon, ben, je vais donner la chance à l'entreprise et la faire pérenniser en la cédant au commercial de l'époque pour conserver les quelques emplois qu'il y avait et puis répondre aux attentes de nos clients fidèles qu'on avait réussi à créer.
Donc du coup, au final, tu as quand même réussi à en tirer quelque chose, ou ça a été une opération où, entre guillemets, tu as appris beaucoup, mais financièrement parlant, tu n'as pas été gagnant?
C'est pas la meilleure opération financière. J'en retire effectivement beaucoup d'expérience. Financièrement, j'en retire quelque chose, mais qui n'est pas en fait à la hauteur de l'investissement personnel et des sacrifices réalisés.
Bien sûr. Et je reviens encore au commencement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais me lancer là-dedans, plutôt que le parcours un peu beaucoup plus classique de se dire je vais être salarié, je vais essayer de faire une belle carrière, de monter, etc. À
Alors,
quel moment t'as basculé?
c'est une excellente question, car à l'époque, effectivement, j'étais en fin d'alternance, j'étais chez Feu Vert, dans un poste plutôt valorisant au sein de la cellule achat et marketing, dans un groupe en développement, avec voilà, un poste qui était assez valorisant, une rémunération de sortie d'école de commerce tout à fait correcte. Mais c'était une question de timing. L'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de questions de timing. Et à l'époque, je m'étais fait la réflexion à me dire, bah, finalement, j'ai 26 ans, j'ai une 306 pourrie qui a 300 000 km, je mange des pâtes tous les jours. Si j'ai des sacrifices à faire en termes de temps d'investissement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc à l'époque, j'ai vidé mon livret A tu sais, les 50 euros que tu as chaque année par tes grands-parents à droite et à gauche. J'ai vendu ma moto pour tout réinvestir dans la société. Et j'ai jugé ce moment le plus opportun pour me dire je peux faire tous les sacrifices et me concentrer sur mon activité. Donc c'était vraiment l'élément qui m'a permis psychologiquement de me dire c'était le moment. À côté de ça, j'avais tous mes collègues de promotion qui intégraient des grands groupes, qui intégraient d'autres sociétés, qui avaient des voitures de fonction, qui avaient leur ticket restaurant, qui avaient leurs notes de frais, qui avaient des rémunérations assez conséquentes. Et moi, j'étais en train de me lancer dans l'entrepreneuriat avec cette volonté de vouloir créer des emplois, de créer une activité, d'avoir ce sentiment de participer un peu, à l'activité du pays et de pouvoir constituer quelque chose, avoir ce côté d'innovation, de création. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été compliqué dans le sens où quand tu vois tout ton environnement qui commence à acheter sa maison, qui commence à partir en voyage, et puis toi, tu es bloqué là, tu n'arrives pas à avancer, tu as des phases de doute, tu as des phases qui sont psychologiquement difficiles. Par contre, ça apprend à se battre et ça permet de développer une faculté de résilience qui est forte.
Là, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'immobilier, même si l'entrepreneuriat, c'est quatre crans au-dessus. Mais il y a aussi ce côté, passer ses soirées à faire des recherches Le Bon Coin, passer ses week-ends ou poser ses demi-journées de congé pour aller faire des visites, plutôt que de les garder pour faire des vacances au soleil, dont on pourra partager les images alléchantes pour ses collègues sur les réseaux. Il y a vraiment ce côté, je me prive, il faut dire les choses, de certaines choses. Je passe ma jeunesse ou mon temps libre ou mes week-ends à bosser, à développer, à me renseigner pour investir, etc. Et toi, tu l'as fait, tous ces sacrifices-là qui étaient, comme dit, encore deux crans au-dessus parce que tu bossais 18 heures par jour et tu ne te rémunérais pas à la hauteur de ce travail-là. Comment tu as fait pour tenir 4 ans Tu te disais, ça vaut quand même le coup ou en fait, c'est tellement insupportable pour moi l'idée d'être salarié et de ne pas avoir d'horizon que je préfère ces sacrifices-là parce que si ça finit par payer à un moment donné, ça remboursera tous les efforts.
En fait, on a chacun son why, pourquoi on fait quelque chose. Tu parlais d'investissement, pourquoi on veut faire de l'investissement? Est-ce que c'est pour devenir rentier? Est-ce que c'est pour préparer un patrimoine futur, par exemple, ou ta retraite? Chacun a sa vision de ce qu'il veut faire. Pour moi, la partie entrepreneuriale, c'est une question de liberté. Donc la liberté, souvent on dit qu'elle n'a pas de prix. Et que cette volonté-là, elle était vraiment liée à faire, d'avoir une envie de développer une activité. Quand tu es entrepreneur, tu peux le faire, tu le fais, tu choisis, tu décides. Il n'y a que toi qui soit emporte les fruits, soit emporte l'échec. Et ça, c'était vraiment le moteur, la liberté de pouvoir entreprendre ce que l'on a envie de faire. Ce n'est pas la liberté de partir en vacances quand on veut, parce que quand on devient entrepreneur, finalement, on a cette fausse idée de pouvoir faire ce qu'on veut et de partir quand on veut. C'est un investissement qui est hyper important, mais qui est passionnant en fait. Et la force de tenir pendant 4 ans, c'est la liberté et la passion de ce qu'on veut faire. Et en même temps, comme je disais, même si la rentabilité n'est pas là, l'activité commerciale a doublé chaque année. Et ça, c'est un sentiment malgré tout de réussite. Et là, on a quand même une récompense par rapport à ça. Et quand on explique à différentes personnes ce qu'on fait, que on a 4 véhicules de fonction, qu'on a des bureaux qui deviennent de plus en plus sympas, etc. C'est des choses qui sont gratifiantes.
Du coup, je fais le lien, c'est ça qui t'a amené à te dire je vais lancer une seconde boîte? Que tu me disais que tu avais du coup lancé deux sociétés.
Oui, parce que finalement, la première société, elle était liée sur le B2C et avec les difficultés que je t'expliquais tout à l'heure, l'autre était sur le même type d'activité, mais orienté B2B. L'idée était de proposer d'avoir deux socles, deux pieds, deux jambes, la partie B2C et la partie B2B. Donc cette deuxième société, c'est fait par... Toujours pareil, une réponse à des attentes. On avait des clients particuliers qui nous ont sollicité pour intervenir à titre professionnel et du coup, on a créé cette société pour répondre aux besoins des professionnels.
Du coup, c'était après les 4 ans ou pendant
C'est pendant les 4 ans.
Pendant, ok. Voilà. Au bout de combien de temps?
En fait, très vite, au bout de 6 mois, on a créé une seconde structure dans laquelle on a adressé une clientèle professionnelle. Et après, les opportunités de marché ont fait que au départ, c'était de l'informatique spécialement pour les TPE, on va dire, TPE. les opportunités de marché ont fait qu'on a rencontré des fournisseurs qui nous ont orientés vers de l'informatique orientée métier. Et ça va faire un parallèle avec ce que je suis devenu aujourd'hui, mais c'était tout ce qui était système informatique pour l'hôtellerie et la restauration. Donc on a adressé cette cible client au bout de 6 mois avec toutes les spécificités métiers. Et on a un partenaire fournisseur qui nous a accompagnés dans la formation et dans le fait d'appréhender en fait ce nouveau secteur d'activité.
Ok. Et du coup, tu as revendu les deux au bout des 4 ans,
Tout à fait,
c'est ça?
exactement.
Est-ce que ces deux sociétés existent encore?
Alors non, les deux sociétés n'existent plus. La création de société, la gestion d'une entreprise dépend vraiment de son dirigeant et sa capacité à prévoir le futur. Quand j'ai cédé au commercial les sociétés, la première décision qu'il a prise, c'était d'augmenter son salaire par deux. Voilà. Donc forcément, ça a des impacts. Comme je te disais, la profitabilité de l'entreprise n'était pas la meilleure puisque il y avait plein de sujets. Avec le recul aujourd'hui, mais quand on y est dedans et qu'on est jeune et qu'on voit pas tout ça, je t'imagine les effets de ces éléments de gestion. La société a déposé, je crois, 1 an et demi après.
Ok. C'est assez frappant parce qu'on a tourné une formation sur la reprise d'entreprise et on expliquait dans l'autre sens que parfois une entreprise qui n'est pas profitable, rien que le fait de virer le dirigeant, mauvais gestionnaire ou dépensier en note de frais par exemple, ou simplement trop rémunéré, permet directement d'équilibrer les résultats d'une entreprise. Donc là, c'est l'inverse. Lui, il a fait cette erreur en reprenant de se créer ce trou-là et avec le résultat qu'on sait du coup. Ok. Donc, à ce moment-là, tu as quel âge? Tu as créé deux sociétés, tu as
Oui.
revendu les deux, tu as.
Donc j'ai créé les sociétés à 26 ans et là j'ai 30 ans.
Ok. Et donc là, qu'est-ce que tu te dis?
Et bien là, à 30 ans, je me prends un peu de recul et je me dis, bah tiens, j'ai sacrifié mon temps, j'ai pas gagné beaucoup ma vie, et est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt, trop tôt, en me disant, bah tiens, il me manque peut-être certains codes de l'entreprise. Je suis sorti d'école de commerce en étant le roi du monde et en connaissant toutes les ficelles du marketing et du commerce, finalement, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et je me suis dit, il faut que je rentre dans un grand groupe. Et cette fois-ci, je voulais rentrer dans un grand groupe pour voir ce que c'était. Puisque quand on est à l'extérieur d'un grand groupe, on a toujours une vision très carrée, très structurée, très performante. Et j'ai voulu intégrer un grand groupe. Et donc à l'époque, j'ai intégré une société lyonnaise, puisque je suis lyonnais à l'origine, qui s'appelle Cegid, qui est un développeur de logiciels. Et j'ai intégré dans une business unit qui avait vocation à développer l'hôtellerie et la restauration.
Ok. Et du coup, ça a duré combien de temps cette expérience?
Cette expérience a duré 2 ans, puisque en fait, cette question de liberté qui m'était chère était difficilement tenable. On est dans un groupe avec toute sa hiérarchie, avec une philosophie. Moi, j'étais très attaché à la partie relation client et satisfaction client. Et des fois, dans un grand groupe, les objectifs financiers ne sont pas forcément en adéquation avec le bien-être de nos clients ou la réponse aux besoins de nos clients. Et du coup, on n'est plus en accord. On n'est plus en accord.
Ok. Et donc du coup, comment ça s'est passé ce retour au salariat après la première expérience? Ça a été compliqué ou au contraire, tu as refait peut-être des horaires beaucoup plus légers et t'as
Non,
soufflé?
parce que sur la partie capacité de travail, après, chacun est comme il est, mais moi j'ai une force de travail et une volonté de travailler qui est importante. Alors c'est sûr que ce qu'on ne voit pas quand on est entrepreneur aussi, c'est la charge mentale. C'est-à-dire que quand on est salarié, le vendredi soir, quand on part du bureau, on éteint son ordinateur, on pose ses dossiers, et l'entreprise peut brûler, elle peut être cambriolée, il peut se passer tout ce qu'on. Voilà, bon, de toute façon, on sera toujours finalement payé à la fin du mois et on sera toujours pris en charge par l'État. Alors quand on est entrepreneur, en fait, c'est une charge mentale permanente sur. On ramène ça le week-end et c'est difficilement. C'est dur de compartimenter les deux.
Bien sûr. Et donc du coup, 2 ans d'expérience là-dedans, pourquoi tu arrêtes?
Puisqu'à l'époque, les résultats de la BU n'ont pas été. Ils ont tout simplement arrêté l'activité de la BU.
Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis?
Bah, je me dis, c'est le moment de faire quelque chose qui me passionne et de trouver un projet d'envergure qui permette voilà, d'aller plus loin et de faire des choses concrètes. Puisque quand on est dans des métiers du tertiaire, quand on est cadre dans une société, qu'on vend de l'immatériel, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de vendre quelque chose qui était très... voilà, très, très simple, hein, de retourner à la restauration. Donc en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en introduction, c'est que pendant mes études, j'ai fait 3 ans et demi dans une enseigne de restauration rapide qui s'appelle Quick. Et j'ai passé des moments extraordinaires en bossant le soir et le week-end. Et je m'étais toujours dit, bah, tiens, la restauration, un jour, peut-être que j'irai et j'aimerais bien monter une franchise. Voilà. Quand je serai grand, j'aimerais bien devenir franchisé, puisqu'à l'époque, on voyait arriver le franchisé dans sa belle voiture, dans sa belle moto. Voilà, il arrivait à entraîner une équipe de différents collaborateurs. Il y avait un esprit d'équipe, il y avait certains points qui étaient ouais, hyper passionnants. Et du coup, je m'étais dit, quand je serai grand, je ferai ça. Donc à ce moment-là, je me mets en quête de fait de développer bah, une enseigne de restauration sous franchise, puisque mon expérience précédente d'entrepreneur libre, entre guillemets, n'avait pas abouti. Et je m'étais dit, il faut que je m'adosse à une enseigne nationale.